Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Tous à vos baguettes, les amis. Eh oui, faut prendre la carte, regardez. Alors, voyons voir, qu'est-ce que je vais prendre?
Numéro 23.
Numéro 22, numéro 23. Si vous voulez faire votre loto en même temps, c'est le moment. Eh oui. On va faire le plein de chinoiseries aujourd'hui avec Philippe Binger, Jean Dorido, Clément Barguin, Trina et DJ Pif.
Alors vous avez le culot de venir me réveiller chez moi à 8h du matin pour me demander une augmentation.
C'est une honte.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous.
C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Ah, les patrons, et surtout les patrons chinois. On va en parler dans quelques instants, bien évidemment. Tout le monde va bien autour de la table?
Ah, très merveilleux.
Oui, vous êtes en forme?
En pleine forme.
En pleine forme.
J'espère.
Ce petit opéra hier, puisque vous nous avez quitté beaucoup plus tôt que prévu.
Galantes. Oui, mais j'aurais dû rester jusqu'au bout parce que j'ai eu un motard exceptionnel. Je serais arrivé à
l'heure. Ah, vous êtes parti à moto à l'opéra?
Voilà. Mais je craignais d'être en retard. J'aurais pu rester, vous faire l'honneur de ma présence jusqu'au bout.
C'est vrai.
Mais c'était extraordinaire. Vraiment un mélange. Les Indes galantes, c'est de Rameau. Mmh. Et c'est une musique qui n'est pas d'aujourd'hui, on le comprend bien, très solennelle, très belle, très majestueuse, mais avec une mise en scène hip-hop. Extraordinaire, et notamment il y a un célèbre passage, la parade des sauvages, Christophe, et c'est dansé à la perfection. C'est un grand moment.
Vous nous donnez envie d'y aller.
Ah oui, j'aimerais bien. Et il y a,
c'est à l'Opéra Bastille à Paris.
À l'Opéra Bastille, oui.
Bon.
Vraiment extraordinaire.
Eh bien voilà.
Écoutez, oui, vraiment, je suis admiratif. J'écouterai Philippe Bilger parler d'opéra pendant des heures.
Mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu tout à l'heure, juste après 18h. Vous verrez pourquoi, mon cher Philippe Bilger, bien évidemment.
Vous m'avez prévu Goldman.
Il n'y a pas que Goldman dans la vie. Il y en a d'autres qui ont des voix bien plus puissantes que Jean-Jacques, évidemment. Allez, personne n'est allé à Rouen aujourd'hui pour prendre l'air, là, non personne, tout va bien. Bon, on va parler des suites de l'accident de cette usine Seveso Lubrizol qui fabrique des lubrifiants, qui fabriquait des lubrifiants. Quoique, elle est à l'arrêt, mais il n'y a qu'un hectare et demi de l'usine qui a été détruit, alors que le site fait 14 hectares. Donc je ne sais pas s'il n'y a pas quand même des parties de l'usine qui ne continuent pas à fonctionner. On essaiera d'y voir plus clair tout à l'heure. Lubrizol, donc, qui fabrique des lubrifiants. Cet incendie énorme, c'était jeudi dernier, on se souvient de ce nuage noir absolument incroyable. Manifestation des habitants hier, manifestation des riverains ce soir pour connaître la vérité. Pollution ou pas, les analyses, les autorités disent, bon, pas d'inquiétude, mais ne consommez pas d'œufs, de lait ou bien encore de salade. Bon, alors question à 18h30, incendie de l'usine Lubrizol, les autorités sont-elles dépassées par l'événement? Tout simplement, on vous attend pour en parler au 0826 300 300. On nous promet la liste des produits chimiques qui étaient dans l'usine d'ici, allez, la fin des vraies voix tout à l'heure à 19h. Donc on va bien voir si on aura l'information ou pas, on l'espère en tout cas. Avant de parler évidemment de tout ça, on va parler de la Chine. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, la Chine fête les 70 ans du régime communiste. Démonstration de force, démonstration militaire à Pékin. Véritablement, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais alors réglé au cordeau. Le défilé du 14 juillet à côté, c'est de la gna-gna. Ça existe, la gnagna?
La gnagnotte.
C'est de la gnagnotte. Voilà, gnagnagna.
Il y a gnagnan aussi.
Il y a gnagnan. Des fois, on est gnagnan.
On est parfois un peu gnagnan.
Bref, manif tendue contre le régime à Hong Kong. Et puis, le livre de Denis Jacquet, qui sera avec nous dans les vraies voix. Denis Jacquet, pourquoi? Eh bien, parce que il y a ce livre très intéressant qui vient de sortir, « Pourquoi votre prochain patron sera chinois ?» C'est aux éditions L'Instant qui suit. Et donc, on vous pose cette question. Avez-vous peur de travailler pour un patron chinois? 0826 300 300. Mais avant de débattre de ces deux sujets, eh bien, c'est le traditionnel, car on aime la tradition dans les vraies voix sur Sud Radio, le traditionnel tour de table de l'actualité.
Encore ces stupides actualités.
Bah, ça dépend de la masse d'informations.
Quand il a rien à dire, il dit rien. Il a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous.
Le tour de table
de l'actualité.
Mon cher Philippe Bilger, qu'est-ce qui vous marque aujourd'hui dans l'actualité ?
On a appris aujourd'hui que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Nicolas Sarkozy pour faire simple. J'en profite pour rappeler au milieu de cet hommage populaire et politique surabondant pour Jacques Chirac, oui, et qui me surprend, qu'il a tout de même été le premier président de la République et peut-être le seul à avoir été condamné. Nicolas Sarkozy, pendant quelque temps, a eu à ses trousses la bagatelle de 8 à 9 procédures, Christophe. Et à chaque fois, il invoquait la présomption d'innocence, mais à force, elle finissait par s'effilocher.
Oui.
Et puis, peu à peu, il a changé d'attitude en cessant de critiquer les magistrats, en disant « je laisse faire la justice, et moi aussi, d'une certaine manière ». Alors, il a un renvoi dans l'affaire pour aller vite de Monaco avec Gilbert Azibert et Maître Herzog. Il a Big Malion qui va le renvoyer devant le tribunal.
Alors, aujourd'hui, c'est Big Malion.
Big,
hein,
Malion, vous
renvoi
avez raison.
Renvoi en correctionnel.
Voilà. Et j'espère qu'au moment des débats, s'ils n'arrivent pas, s'ils arrivent, évidemment, ils arriveront, eh bien, il y aura la même équitable administration de la justice à l'égard de notre ancien président, qu'il soit coupable ou qu'il soit relaxé.
Alors, Big Malion, il faut quand même juste rappeler, ouais, que c'est le dépassement des montants financiers de la campagne électorale. Hein, voilà.
Voilà. Et j'ai beaucoup. Jean, et pardon, Jean, j'ai beaucoup.
Vous pouvez lui couper la parole quand vous voulez, Jean.
Non,
hein, il n'y a pas de souci.
Hein, il n'est pas non, facile.
Mais je voulais dire, j'ai beaucoup apprécié la mesure, Christophe, de l'avocat à la Cour de cassation, Pivnica, qui a dit c'est une décision, il n'a même pas dit qu'il m'étonne. Quelle tenue tout de même, on a le droit de discuter ce qui vient d'être décidé, et quand on le fait avec cette élégance, c'est parfait.
Parce qu'il est renvoyé en correctionnel, mais évidemment, ouais, il n'est pas encore jugé.
Non.
Donc
ah non,
on verra bien ce
tout
que ça donnera, Jean.
Et alors oui, pour être sûr de bien suivre, parce que c'est compliqué pour quelqu'un qui n'est pas initié à la chose judiciaire, de bien suivre le dossier. Si j'ai bien compris, l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, il est concerné par le dépassement de son budget de campagne. Mmh. Alors qu'il y a aussi dans cette affaire la question de la surfacturation de Big Malion, qui manifestement, là, ne concerne pas l'ancien chef
non
de l'État,
non,
qui est un autre, parce que c'est pas facile,
c'est
je dirais,
partie,
pour le
de
commun
oui
des lecteurs de la presse, ce n'est pas toujours simple de distinguer l'un de l'autre.
On va dire que là, non mais juste pour résumer, pour préciser un petit peu les choses, on va dire qu'il y a des sommes d'argent, en fait, qui ont été facturées au nom de l'UMP, ce qui a permis à Nicolas Sarkozy, effectivement, voilà, de dépasser le budget et les comptes de campagne qui sont normalement prévus par la loi,
plafonnés,
voilà, tout simplement. Voilà ce qui s'est passé. Tiens, puisqu'on parle de justice, demain, la sortie de votre livre, mon cher Bilger.
En effet, Le mur des cons, le 2 octobre.
Ouais.
Qu'est-ce
que vous avez voulu à travers ce livre ? On en reparlera.
Alors,
parce qu'on fera un débat autour de tout ça. Mais qu'est-ce que vous avez voulu faire
en une
passer ?
Ouais. La magistrature est un grand métier. Deuxièmement, Christophe, on ne devient pas, on n'est pas un grand magistrat si on n'est pas libre et si on ne résiste pas aux pressions intolérables. Troisième élément, le citoyen doit être notre boussole. Il n'y en a pas d'autre. Mmh. Et dernier, qui est fondamental, il n'y a pas de justice politisée, mais il y a des politiques qui sont judiciarisées et jugées. C'est tout à fait différent.
Et pourquoi le mur des cons, alors ?
Parce que, évidemment, avec...
Bon, référence à l'affaire.
Référence à l'affaire qui a été catastrophique, qui a détruit dans l'esprit public l'image de la magistrature à un point inimaginable. On a confondu quelques énergumènes avec l'ensemble de la magistrature.
Alors, quelques énergumènes, j'ai quand même le sentiment que, oui, le syndicat qui est derrière ce mur des cons est quand même le syndicat le plus populaire
de
auprès des magistrats. C'est le syndicat de la magistrature.
Non, le plus populaire, c'est l'USM, c'est l'Union syndical des magistrats.
En tout cas, c'est les juges de gauche, là,
de
syndicat
gauche,
de la magistrature.
Et qui, au lieu de servir la justice, s'en servent. Quoi.
Et la desservent.
Voilà.
On aura l'occasion,
bravo,
évidemment, de reparler de votre livre, Philippe Bilger, et de faire un débat, tiens, dans les vraies voies autour de la justice, en partant, évidemment, de votre ouvrage dans les jours qui viennent, bien évidemment. Allez, la suite du tour de table dans un instant, dans les vraies voies, sur Sud Radio, à 17h30. On va parler de la Chine. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, la Chine fête les 70 ans du régime communiste, démonstration de force, démonstration militaire à Pékin, manif tendue, je le disais, contre le régime à Hong Kong, et le livre de Denis Jacquet qui sera avec nous dans les vraies voies. Pourquoi votre prochain patron sera chinois aux éditions L'Instant qui suit, écrit avec Homéric de Sarthe. Et donc cette question que l'on vous pose, avez-vous peur de travailler pour un patron chinois ? Et oui, parce que les Chinois, Ils sont là, ils sont partout.
Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Les vraies voix sur Sud Radio avec la suite de notre tour de table de l'actualité. Et on poursuit avec Jean Dorido. Jean Dorido, qu'est-ce qui vous marque dans l'actualité ?
Écoutez, ce qui me marque, c'est ce triste spectacle des 17e mondiaux d'athlétisme à Doha, au Qatar.
Il fait chaud là-bas.
Oui, il fait extrêmement chaud.
Oui. Et les athlètes français, il y en a qui ont abandonné, on s'y attendait
pas. Mais
oui,
Johan Diniz, qui était tenant du titre du 50 km marche, a été vraiment contraint d'abandonner au 16e kilomètre. Il eut bien raison pour préserver sa santé. Mm. Et je trouve effarant un moment où tout le
qu'il
monde...
Qu'il fasse aussi chaud.
Non, c'est normal.
Je dis, oh là là, j'ai vu ce qu'il raconte.
Il y en a tout de même qui ont gagné.
C'est normal qu'il fasse chaud dans le désert. Simplement, je trouvais effarant à une époque où tout le monde fait attention à la préservation de l'environnement. Air France vient d'annoncer qu'ils vont compenser le CO2 de leurs avions en plantant des arbres. Je trouve complètement insensé.
Comme ça, ils vont en mettre plus d'avions.
D'organiser des mondiaux d'athlétisme en plein désert avec des turbines, des canons à climatisation toute la journée pour refroidir le stade.
Bah c'est inévitable.
C'est inévitable, bien sûr.
Non, mais au Qatar, c'est partout. Hein.
C'est complètement aberrant.
Non, mais au Qatar, c'est partout.
C'est pas la peine d'en
rajouter. Dans n'importe quel
mais là,
stade,
en plus, dans n'importe quelle salle de sport,
dans n'importe quel hôtel.
Des mondiaux d'athlétisme.
Non, mais s'il n'y a pas de clim au Qatar, les gens vont crever les uns après les autres.
Alors, hein. Imaginez, il n'y a personne dans les stades.
Ils payent des ouvriers.
Ils ont toujours fait ça. Mais ils ont toujours fait ça.
C'est un véritable pousseau.
Vraiment, je trouve ça complètement effarant et très triste pour l'athlétisme et pour les fans d'athlétisme dont je suis.
Bon, bah écoutez, j'entends ce que vous dites, mais en même temps, je vois pas très bien comment ils pourraient faire autrement. Mais
en organisant des compétitions internationales dans des endroits qui s'y prêtent.
Il aurait pas fallu
le Qatar est une puissance aujourd'hui évidente.
Financière.
Je ne vois pas comment on pourrait résister au fait que le Qatar puisse avoir, comme Paris va avoir les JO, le Qatar a aussi le droit d'avoir des compétitions internationales.
Oui, mais c'est au niveau de l'image. Quand on voit des marches nocturnes, il y avait des images hallucinantes de cette marche nocturne où il y a des projecteurs, il y a des projecteurs
Dehors.
Mais oui, mais ça n'est pas raisonnable d'organiser. Si vous faites du patin à glace, vous allez dans une patinoire.
Mais Christophe, vous n'avez pas faire du patin à glace. Mais il faudrait que le Qatar ait les Jeux de manière légitime et honnête.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est une autre histoire, bien évidemment.
Merci, non, mais c'est vrai.
Christophe, il a l'art de penser contre lui-même.
C'est inouï.
Oui. Allez, mon cher Barguin, qu'est-ce qui vous marque, vous, dans l'actualité ?
Oui, moi, je voulais vous parler de la traque des fraudeurs fiscaux sur les réseaux sociaux. En fait, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Le Bon Coin, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, dès maintenant, ça va être scruté par le ministère de l'Économie qui va ratisser toutes vos recherches sur Internet et tout ce que vous faites sur Internet pourra être dans les mains du fisc. Alors, pourquoi ? C'est pour dénicher les potentiels fraudeurs fiscaux. Donc, tout sera collecté, hein, que ce soit les posts, tout. Il y aura des algorithmes qui vont vérifier les recherches que vous faites. Et tout ça, en fait, ça figure dans le nouvel article du projet de loi de finances, l'article 57. Et c'est une expérimentation pour détecter les fraudes.
Encore du flicage, quoi.
Voilà, et on a la CNIL ce matin qui s'inquiète justement de ça et qui dit, là, les libertés individuelles, elles peuvent être touchées à partir du moment où tout est scruté, tout ce que vous faites sur Internet peut être entre les mains de Bercy pour pouvoir...
Donc ça veut dire,
final,
mais tenez-vous bien, Dorido, tenez-vous bien, parce que vous levez le doigt pour prendre la parole.
Oui, je lève le doigt, je suis discipliné, contrairement à d'autres.
Moi non, avant de parler, non mais vraiment, ce qui est extraordinaire, ça veut dire que demain, donc, je vais aller sur Internet... Je grossis un peu le trait, mais c'est un peu ça.
C'est un peu ça.
Je vais taper yacht, parce que je fais une recherche sur un yacht dans le cadre de mon travail, par exemple, de journaliste.
Ne vous justifiez pas.
Et donc, tout d'un coup, je ne sais pas, Bercy sera en train d'observer ce que je fais. Il dira, oh, c'est bizarre, celui-là, il a pourtant un salaire qui n'est pas si énorme que ça, mais il veut s'acheter un yacht. On va quand même aller vérifier. Mais c'est quoi ça ?
Et c'est d'autant plus amusant que les réseaux sociaux sont quand même vraiment le royaume du fake et vraiment le royaume du mensonge. C'est vraiment l'art de la preuve sociale. Il y a des personnes qui louent des voitures de sport.
Oui, c'est n'importe quoi.
Justement, qui empruntent des yachts pour frimer, parce que c'est vraiment le lieu qui est fait pour ça, le lieu digital de la frime. Et là, je souhaite vraiment bien du plaisir aux inspecteurs des impôts qui vont devoir trier le vrai du faux.
Bon, alors d'abord, petit 1, ils ne sont pas assez nombreux. Hein. Petit 2, la chasse à ceux qui mettent de l'argent à gauche, si je puis dire, c'est-à-dire en Suisse ou dans n'importe quelle autre plateforme mondiale,
au-delà
fiscale,
par exemple, paradis fiscal,
etc.,
État des États-Unis.
N'importe quel paradis, ils savent très bien qui met de l'argent où. Hein. Faut arrêter de nous raconter des histoires. Hein. Donc, il y a un moment... Non, mais là, c'est juste pour, une fois de plus... emmerder le monde et tacler les Français.
Surtout
voilà.
Que c'est très flou. Tacler on ne sait Français, pas quelles données vont être
moyenne,
récupérées.
Voilà, c'est tout. C'est ça. C'est
faites fou. Attention, Clément. Alors, faites sur
à chaque
Internet.
Recherche, maintenant, je vais faire attention. J'aurai le fisc
fais attention
en tête.
Quand même, toi, parce que toi, je te paye très cher quand même.
Oui,
donc,
c'est vrai.
Oui.
Depuis que j'ai dit que vous ressembliez à Édouard Philippe.
Depuis hier, j'ai été au courant.
Il y a une autre famille.
Évidemment. Notre vraie voix régionale du jour, les amis, Olivier Morin, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Éleveur de brebis laitières et co-président de l'Association pour le développement durable et l'identité des Pyrénées. Alors, mon cher Olivier, l'ours a attaqué et 1 millier de bêtes sont mortes depuis quelques mois en Ariège. 1 millier de brebis sont mortes à cause de l'ours. Honnêtement, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus que jamais en colère ?
Bon, ça fait des années qu'on est en colère et on le répète tant et plus que de toute façon, plus le temps va passer et plus la population d'ours va augmenter, forcément les attaques sur les troupeaux vont se multiplier. Mais vous parlez d'un millier de brebis sur l'Ariège.
Oui.
Mais pour les chiffres, donc on ne parle que de ce département aujourd'hui puisque ce sont les seuls chiffres de la préfecture qu'on a.
Ce sont les chiffres publiés ce matin. Hein.
Oui. Voilà, donc on n'a pas les chiffres officiels des autres départements. Mais on parle d'un millier de brebis, mais on est aussi à 6 fois plus de bovins. Donc on a 6 fois plus d'attaques sur des bovins, sur des chevaux, et c'est 11 fois plus de ruches qu'en 2015. Donc il n'y a pas que les brebis qui sont victimes, bien sûr les brebis sont les principales victimes, mais...
Ça veut dire quoi ? Qu'il y a tant d'ours que ça dans les Pyrénées aujourd'hui ? Bon, il y avait ceux qui avaient été lâchés, dont ouais. On avait parlé il y a maintenant quelques mois, quelques années
quelques
aussi.
Il y a
tant d'ours que ça aujourd'hui dans les Pyrénées ?
Alors écoutez, savoir combien il y a d'ours dans les Pyrénées aujourd'hui, c'est très difficile, parce que ce dossier est tellement opaque et tellement verrouillé aujourd'hui par l'ONCFS, les bergers ont du mal, et les citoyens, à savoir combien il y a d'ours exactement. Ce qu'on constate, c'est que selon les chiffres qu'on nous donne, il y aurait une 50aine d'ours. On est parti, je vous le rappelle, en 96, d'une première réintroduction avec 3 individus. D'accord, deux femelles et un mâle, avec un autre renforcement qui a été fait en 2006, un autre renforcement en 2016 avec un mâle Goliath qui fait parler de lui, je pense que vous en avez entendu parler, surtout côté espagnol, et les deux dernières qui ont été réintroduites chez nous dans le Béarn. Dont une qui a passé son temps et qui vit aujourd'hui côté espagnol et qui, à elle seule, a déjà causé la mort de plus d'une centaine de brebis, à elle toute seule.
Vous répondez quoi là ? Parce qu'avec ce que vous nous dites quand même, évidemment, si on se met à la place quelque part des écologistes qui, eux, sont favorables à cette réintroduction depuis longtemps de l'ours dans les Pyrénées, on a envie de vous dire, c'est aussi un animal qui fait partie du paysage, c'est normal qu'il soit là.
Non, l'ours des Pyrénées faisait partie du paysage. Aujourd'hui, l'ours des Pyrénées, il est éteint, d'accord ? Il n'y a plus d'ours. D'accord, originaire des Pyrénées.
Oui.
Ce sont des ours originaires de Slovénie qui sont réintroduits. Alors, les arguments, on les entend, les arguments de biodiversité, mais sauf qu'aujourd'hui, l'ours en lui-même, l'espèce, n'est pas en voie de disparition. Et aujourd'hui, la biodiversité des Pyrénées, l'écosystème pyrénéen, est bien vivant et toujours aussi riche qu'il était même lorsqu'il y avait des ours. Sans les ours, donc aujourd'hui, de vouloir réintroduire des ours dans les Pyrénées et de vouloir développer une population, parce que je vous rappelle quand même, aujourd'hui on a 50 ours. L'objectif qui est des écologistes et du gouvernement affiché, c'est d'arriver à faire en sorte que cette espèce ne soit plus en danger. Donc ne soit plus sur la liste rouge des espèces en voie d'extinction. Mais est-ce que vous savez combien il en faut d'ours ? Il en faut plus de 200. plus de 200 ours. Quand vous voyez aujourd'hui qu'il y avait 50
avec
ours,
50, les dégâts sont déjà là.
Des rencontres entre des humains et des ours, parce qu'aujourd'hui, ce sont des brebis qui sont tuées, ce sont des vaches. Mais demain, qui vous dit que avec la densité de tourisme qu'il y a de randonneurs dans les Pyrénées, qu'on n'aura pas un problème?
Bon. Alors, écoutez, on va suivre tout ça. Merci beaucoup, hein, Olivier Morin, éleveur de brebis laitières et coprésident de l'Association pour le développement durable et l'identité des Pyrénées. C'est vrai que ça paraît complètement fou, rien qu'en Ariège, un millier de brebis qui sont mortes depuis le début de la saison. Et c'est évidemment plus que les années précédentes à cause de ces ours qui se baladent dans les Pyrénées. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Dans un instant, dans Les Vraies Voix, notre premier débat.
Alors vous avez le culot de venir me réveiller chez moi à 8h du matin pour me demander une augmentation.
Je suis pas sûr qu'une augmentation auprès d'un président chinois, d'une entreprise, d'une société, ça marche vraiment. Je suis pas sûr qu'un PDG chinois, il soit facile à convaincre.
En tout cas, si elle doit être formulée, il faut prendre beaucoup de précautions.
Oui, voilà.
Il faut travailler son mandarin.
Le 70e anniversaire de la Chine communiste, c'est aujourd'hui. Démonstration de force, démonstration militaire à Pékin, manif tendue contre le régime à Hong Kong et le livre de Denis Jacquet qui sera avec nous dans Les Vraies Voix. Pourquoi votre prochain patron sera chinois? Et on vous pose cette question. Avez-vous peur de travailler pour un patron chinois? 0826 300 300. Et les réseaux sociaux, Trina?
Bien, c'est assez mitigé pour le moment. C'est le oui qui l'emporte, mais à 53% seulement, donc rien n'est encore joué.
Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.
Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Merci patron. Allez, Dorido, merci patron.
Oui, oui, merci patron.
Vous êtes nul en chanson.
J'ai toujours du mal avec certaines chansons des Charlots, mais pas toutes.
Ah bon? Bon, ouais, très bien. Et Bigger, non, merci patron.
J'adore celle-là. Mais
oui, mais vous la chantez pas, vous. Ah, non. Et Barga, vous chantez bien?
C'est vous, mon patron, donc si je dis merci patron,
tiens, voilà, ça fait remets un peu... Remets-la plus fort, il va chanter.
Mais comment? Je ne sais pas chanter. Mais non, je ne peux pas chanter. Merci patron. Je dirais juste merci patron. Oui, mais il faut savoir bien chanter. J'ai pas les talents de l'opéra.
Il ose pas, que voulez-vous que je vous dise. Allez, Les Vraies Voix sur Sud Radio, avec Philippe Binger, Jean Dorido, Clément Barguin, Trina McDean et notre people, oui, notre people du jour, Denis Jacquet. Bonsoir et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Voilà.
Moi, je dis la troisième personne, attention.
Parce que les Français disent people, mais je pense que si on dit people, c'est mieux.
C'est surtout à Paris, people.
People. Voilà. Denis Jacquet, pour votre livre, votre prochain patron sera chinois, aux éditions L'Instant qui suit, écrit avec Homéric de Sarthe. Denis Jacquet, entrepreneur, je le rappelle, créateur également du mouvement One Day. C'est quoi ce mouvement, en deux mots?
Gros mouvement sur l'impact digital sur la société qui se déroule dans 15 jours à Monaco pour la deuxième fois.
D'accord. Voilà. Et donc là, il y a plein de patrons qui viennent du monde entier.
Pour enfin arrêter de parler et prendre des vraies décisions sur l'impact, sur les jobs, la santé, les territoires.
Bah dis donc, voilà. Quel programme.
Et quelle synthèse.
Et quelle synthèse.
Ouais. C'est bien, c'est la première fois que je fais aussi court.
Il devrait faire de la radio. Ouais. Allez, on y va. Le premier débat des Vraies Voix aujourd'hui, le 70e anniversaire en plus de la Chine communiste. Hein. C'est donc aujourd'hui, démonstration de force, démonstration militaire à Pékin. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais c'est toujours impressionnant parce que ça marche droit là-bas.
Pas de problème,
C'est pas comme en France.
Fort, hein.
Bon, ils sont forts, ces Chinois. Manif tendue en revanche contre le régime à Hong Kong, et on vous pose cette question dans Les Vraies Voix. Avez-vous peur de travailler pour un patron chinois? On vous attend au 0826 300 300, et bien sûr sur les réseaux sociaux, ma chère Trina.
C'est oui, on est passé à 54%. On a Artisan d'art qui nous dit pourquoi ce n'est pas déjà le cas.
Ah, bonne question.
Bonne question
et bonne remarque, et on va en parler dans quelques instants, bien sûr. Je le disais tout à l'heure, pour beaucoup de Français, le Big Boss est déjà chinois. C'est ça la vérité, c'est que si on prend quelques exemples, aéroport de Toulouse, tiens par exemple, où tout va bien là-bas, hein, depuis des mois et des mois maintenant, on ne sait pas très bien où est passé le grand patron chinois, mais enfin, bon, ça appartient aux Chinois, voilà. Le Club Med, Lanvin, GDF Suez, PSA en partie aussi, appartient aux Chinois aujourd'hui. Ça n'a pas l'air d'être si insupportable que ça, Denis Jacquet, de travailler pour les Chinois. Bon, oui, il y a l'aéroport, c'est pas un très bon exemple. Mais pour le reste, les salariés n'ont pas l'air de se plaindre plus que ça, non?
En fait, ce qui est assez amusant dans ce phénomène d'inquiétude des Chinois, c'est qu'on est très inquiet d'une population qui ne nous ressemble pas et avec qui on pense n'avoir aucun point commun. C'est-à-dire que quand vous avez un Américain qui investit, un Européen qui investit, bon, ça, on s'est habitué. Après, il y a eu tout le Moyen-Orient qui a investi chez nous, on s'y est habitué aussi. Mais les Chinois, c'est vraiment très loin, c'est très différent. On
n'arrive pas à comprendre. C'est loin, mais c'est beau.
C'est magnifique. Un pays
c'est
qui
loin,
est quand même,
mais c'est beau.
Dont on a appris beaucoup de choses.
Hein. C'est loin, et donc, mais c'est
du coup,
beau.
Oui, voilà. Et donc, du coup, c'est très surprenant parce qu'on l'a vu, ce qu'a cristallisé tout, c'est la 5G. La 5G, on a dit, mais attendez, on ne va pas délaisser ça aux Chinois parce qu'en gros, le
c'est
monde...
C'est quoi la 5G
en... La 5G, c'est tout ce qui va vous permettre de télécharger avec un très haut débit.
Ah oui, aujourd'hui, on a la 3G, la 4G sur nos téléphones.
Les objets connectés.
Voilà, on aura 5G, la 5G.
Tous les objets connectés.
Surtout pour les objets.
Et donc, gros débat, est-ce qu'on doit confier ça aux Chinois parce qu'ils vont écouter le monde entier et donc prendre un avantage compétitif juste absolument incroyable. Et tout à coup, les gens disent, mais... Vous êtes écouté par les Américains, par les Européens, par les Russes depuis très longtemps. Pourquoi ça vous gêne d'être aussi écouté par les Chinois ? Qu'est-ce qui est plus dangereux ? Donc en réalité, la vraie question, c'est que c'est un pays qu'on n'a pas vu grossir. Ouais. C'est un pays qu'on n'a pas vu venir. C'est un pays qu'on n'a pas voulu voir venir et qui du coup maintenant est en avance sur tout. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est un pays qui copie, qui fait des usines à bas coût. Aujourd'hui, un ouvrier chinois est devenu beaucoup trop cher pour que ça soit un pays à bas coût.
Ouais.
C'est un pays aujourd'hui où la plupart des
enfin,
Européens...
Enfin, ça reste moins cher qu'en France.
Ça reste tout à fait moins cher qu'en France, mais rien ne peut être plus cher qu'en France. Mais en même temps, on a les meilleurs du monde, tout le monde le sait. Mais néanmoins, je pense que cette différence culturelle, cette incompréhension de la langue, ce caractère un peu... assez peu sondable d'un Chinois quand vous l'avez en face de vous, c'est quand même assez difficile à lire un Asiatique de façon générale, mais particulièrement un Chinois, fait que voilà, ça nous heurte parce qu'on n'est pas habitué. Et donc, du coup...
Mais moi, ce que je voudrais comprendre... Bon, là, on parle de la 5G, du digital, etc., c'est très bien. Moi, ce que je voudrais comprendre, quand un patron chinois prend la tête d'une entreprise française...
Ouais.
Qu'est-ce qu'il fait concrètement ? Est-ce qu'il change les règles ? Il ne peut pas changer les règles, par exemple, parce qu'il y a des lois, il est obligé de les respecter, etc. Non, mais je vous demande ça parce que si on prend un exemple dont on m'a déjà parlé à plusieurs reprises, qui est l'équivalent d'EDF au Portugal, qui aujourd'hui appartient aux Chinois, les salariés là-bas du EDF portugais disent « Ah, mais quand même, les règles ont un peu changé, hein, c'est plus tout à fait comme avant, hein, faut travailler un peu plus, etc. » En France, quand un patron chinois arrive, on n'a pas l'impression qu'il y ait une révolution.
Alors, c'est tout le paradoxe, c'est pour ça qu'on avait choisi ce titre. C'est qu'en réalité, le monde devient progressivement et va être sous domination chinoise en large partie. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont plus les seuls vainqueurs de cette nouvelle économie et aussi un petit peu de l'ancienne. Les Chinois, maintenant, ont toute leur place là-dessus. Bon. Mais le paradoxe, et un peu, c'est pour ça qu'on a joué un peu sur ce titre, c'est que pratiquement jamais une boîte chinoise qui achète une boîte occidentale ne met un patron chinois. Elle met un contrôleur financier, elle met quelqu'un qui s'assure que les flux, les contacts, les commerces, tout ce qui est lié au transit de l'argent et au mouvement financier se passe comme ça a été prévu. Pour le reste, pratiquement jamais n'a jamais été remplacé par un patron chinois. En plus, les Chinois savent qu'ils sont très mauvais. Ils savent pas manager. Ils le savent très bien. Ils sont très pragmatiques, c'est pas leur truc. L'autorité, le côté un peu guerrier, le côté hiérarchique. Alors, c'est très hiérarchisé, la société.
Bah oui.
Mais en même temps, ils ne savent pas gérer ça. Et donc, du coup, le gérer en plus avec des gens qui ne leur ressemblent pas, ils disent un Français gérera toujours mieux un Français que n'importe qui, un Espagnol, etc. Et vous regardez 99% des boîtes qu'ils ont achetées, vous avez quelqu'un dans l'ombre qui s'assure que les mouvements financiers, le commerce se fait bien avec la Chine de façon prédominante, mais en aucun cas... Ça ne change le reste. Et puis après, quand vous êtes dans un pays, vous avez beau être chinois, si vous rachetez demain EDF, vous n'allez pas pouvoir changer quoi que ce soit aux 35 heures. C'est la loi. Donc, voilà.
Alors, on parle toujours des Chinois qui achètent des trucs chez nous, des châteaux, des entreprises, etc. Mais nous, à la fin, on leur vend quoi concrètement aux Chinois ? Qu'est-ce qu'on leur vend ? Qu'est-ce que la France et l'Europe leur vend concrètement ?
La France, l'Europe et les pays occidentaux leur ont vendu leur âme pendant 30 ans.
Oui,
et
ça, d'accord.
Âme,
oui.
C'était
on vend des sacs à main.
Voilà,
des
c'était
sacs à main,
nos emplois, notamment.
De grand luxe.
Voilà.
Non, mais quand ils copient Airbus pour faire des avions, etc., on a bien compris que c'est un peu de notre faute.
C'était ma deuxième réponse, c'est qu'en fait, on leur a vendu nos technologies en échange d'un accès au marché jusqu'au moment où c'est aperçu que ça ne marchait pas.
Ce que je veux dire, c'est que nous, on leur achète tout. Regardez, Noël arrive. Il y a quand même une ville entière en Chine qui fait que des décorations de Noël que le monde entier achète.
Ouais.
Bon, donc on leur achète des guirlandes et des boules de Noël, mais nous, on leur vend quoi au quotidien à ces gens ? Rien ?
Pas énormément de choses. On leur a vendu des technologies, mais à un moment donné, quand ils savent les faire mieux que nous... Enfin, il y a un truc qu'il faut comprendre. La Chine, c'est un pays qui est basé sur l'écriture. L'écriture, c'est quelque chose que vous apprenez tout petit en Chine et vous copiez, vous recopiez, vous recopiez, jusqu'à un moment où vous êtes à un niveau de perfection absolue et là, vous devez améliorer. Et les Chinois, quand on leur dit « mais vous copiez », ils disent « où est le problème ? C'est notre culture. Voilà. » C'est parce que nous, on a considéré que la copie, c'était mal. Eux, ça ne fait pas partie du camp du péché en Chine. Donc, le fait de copier, d'améliorer et ensuite de faire mieux, c'est juste dans l'éducation d'un Chinois.
Et d'autant plus qu'ils copient pour mieux faire après.
Et ils finissent par faire mieux.
Depuis toujours, quoi. Ils ont cette intelligence d'imiter ce qu'il y a de bon, mais après, pour découvrir une autonomie.
Et après, ils nous revendent leur technologie qu'ils ont améliorée. C'est quand même extraordinaire.
Bah, alors, si vous prenez l'exemple de l'Afrique ensuite, vous allez parler aux Africains, ils disent on avait des boubous, on avait des espadrilles. Elles étaient faites un peu en Hollande, un petit peu en Europe, un peu en Afrique. Aujourd'hui, ils ont repris tous les modèles, ils les ont copiés, ils les ont envoyés en Chine, elles reviennent en container, elles sont vendues, il n'y a pas un seul Africain qui a gagné un centime au passage. Donc effectivement, ils ont une capacité à organiser le commerce à leur profit, et c'est ça la grande force de la Chine, celle qu'elle avait jusqu'au milieu du 15e siècle.
Alors c'est la revanche.
95...
Mais c'est la revanche. C'est la route de la soie, c'est la revanche. Ils sont en train de refaire la route de la soie.
Jusqu'au 15e siècle,
c'était entre la Chine et l'Europe qui existait à ce moment-là.
Jusqu'au 15e siècle, la Chine, c'est 95% du commerce mondial. Mmh. Et l'objectif de la Chine, c'est que dans les 10 prochaines années, 95% du commerce mondial profitera d'une façon ou d'une autre à la Chine. Et avec la route de la soie, c'est exactement l'objectif.
Et il faut voir leur formidable capacité d'assimilation et d'intégration dans nos pays. Pardon, une référence personnelle, Christophe, j'ai une belle-fille chinoise. Au bout de 3 mois, elle était encore plus fan du PSG que son mari, mon fils.
C'est incroyable, ça.
Oui, elle parlait français. C'est incroyable leur capacité. Ils n'ont aucun orgueil. Ils cherchent d'abord à bien maîtriser les règles du pays où ils sont.
Ouais. Allez, on va continuer de débattre dans un instant, mon cher Denis Jacquet. On poursuit le débat avec cette question dans
c'est
les
loin,
vrais mois.
Mais c'est beau.
Ah oui. C'est loin, mais c'est beau. Comme disait Jacques.
C'est loin, mais c'est beau.
Le 70e anniversaire de la Chine communiste, c'est aujourd'hui. Démonstration de force, démonstration militaire et le livre de Denis Jacquet qui est avec nous. Pourquoi votre prochain patron sera chinois ? Question que l'on vous pose, avez-vous peur de travailler pour un patron chinois ? On vous attend au 0826 300 300 et bien sûr sur les réseaux sociaux. Trina ?
C'est toujours oui pour nos auditeurs votants et ça augmente. On vient de passer à l'instant à 57%.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre le débat. A tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Ça, c'est pas chinois, hein.
Non, non, mais ça pourrait.
Mais ça pourrait.
C'est-à-dire, le français chante « on rentre du boulot », le chinois dit « je vais au boulot ».
Oui, voilà. Chacun sa culture, finalement. Hein, voilà. Chers amis, ni hao. Bah oui, il faut quand même dire bonjour à un moment. On apprend le chinois dans les vraies voix sur Sud Radio.
Et là, pour aller avoir l'intelligence, je réponds konnichiwa et là, j'ai l'air d'un imbécile.
Oui, c'est ça. 70e anniversaire de la Chine communiste, c'est aujourd'hui. Démonstration de force, démonstration militaire à Pékin, manif tendue contre le régime à Hong Kong et le livre de Denis Jacquet qui est donc avec nous. Pourquoi votre prochain patron sera chinois ? On vous pose cette question. Avez-vous peur de travailler pour un patron chinois ? 0826 300 300 si vous souhaitez intervenir. Si c'est votre cas, d'ailleurs, vous pouvez venir nous raconter comment ça se passe. Et puis, les réseaux sociaux, ma chère Trina.
C'est toujours oui à 57%. On a notre ami Basco Bernet qui nous dit « Je vous souhaite une très bonne émission sans chinoiserie. »
Oh, c'est mignon. C'est mignon, tout à l'heure, parce que j'ai dit « On va faire des chinoiseries. » Bah, c'est gentil. Il nous écoute. Il s'appelle comment ?
Basco Bernet.
Basco Bernet, ah ben oui. Il est là tout le temps. Bon, on l'embrasse, tiens, s'il nous écoute, bien évidemment. Sia, Trina.
Pardon ?
Sia.
Et à vos souhaits.
Ouais, d'accord. Je la remercie, elle vient vous souhaiter. Non, mais elle ne comprend rien au chinois.
Moi, c'est plus le vietnamien.
Bon, allons-y. Denis Jacquet, auteur du livre « Pourquoi votre patron sera chinois » est toujours avec nous. Donc, vous dites « Il reste 10 ans pour rattraper la Chine ». Alors, moi, quand je vois ça, j'ai envie de vous répondre « Ça paraît tout simplement impossible ». Enfin, ils sont quand même, soyons réalistes, ils sont 1,5 milliard, en gros, et nous, on est 68 millions à la France. Et combien au niveau européen ? 500 millions ? Un peu moins ?
700, ouais.
Un peu plus. Bon, je vois pas très bien comment on pourrait réellement les concurrencer, faire le poids, quoi, honnêtement.
Alors, ma phrase est un tout petit peu plus longue que ça.
Oui, mais c'est vrai, mais...
On dit que sur le digital, c'est-à-dire les nouvelles frontières, l'intelligence artificielle, la data, etc., il nous reste 5 ans pour trouver une solution, pour se battre et avoir encore une place dans le monde aujourd'hui. Et en gros, ce qu'on propose dans la fin du livre, c'est vraiment de travailler sur cette relation à l'Afrique, où finalement en 2050 on aura 2,5 milliards d'individus. On est 700 millions.
Donc vous dites, pour être plus fort,
il faut aller avec l'Afrique.
Il faut aller avec l'Afrique.
On n'a aucune chance en tant qu'Européen d'y arriver tout seul.
Les Chinois sont partout en Afrique aujourd'hui.
Oui, oui, ils sont partout sur le commerce, mais ils ne sont pas encore là sur le digital. Donc on a une capacité assez énorme aujourd'hui. Si on sait utiliser des technologies européennes pour monter des modèles économiques, des modèles d'entreprise, des modèles de coopération avec l'Afrique. Et là, on a entre 5 et 7 ans, d'ailleurs pas 10 ans, pour réussir à tirer notre épingle du jeu. Les Chinois ont... Allez, en gros, règne sur à peu près 2 milliards d'individus, c'est-à-dire toutes les zones où leurs applications, les WeChat, etc., sont utilisées en Corée, un petit peu partout. Les États-Unis, bah, Facebook, etc., règnent à peu près sur 2 milliards et quelques d'individus qui utilisent Google ou Facebook. Donc nous, il nous faut une zone à 2 milliards d'individus. Et la seule qui reste aujourd'hui disponible, c'est l'Afrique.
Mais est-ce qu'on peut arriver... Non, mais une question simple. Est-ce qu'on peut arriver à ça? Franchement,
on peut y
parce
arriver.
Que déjà entre Européens, on s'entend pas clairement. Donc avec les Africains, je vois pas comment on pourrait s'entendre.
Avec un très mauvais esprit qu'est le mien, je me souviens vaguement de mes cours de maths à l'école et on m'a toujours expliqué que moins par moins, ça pouvait faire plus.
Oui.
Donc je me dis que moins l'Europe multipliée par moins l'Afrique, on peut réussir à faire des choses. Et ce qu'on fait notamment à Day One, c'est de fabriquer ces coopérations pour qu'elles débouchent sur des modèles économiques dominants avec l'Europe et l'Afrique enrichies.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut créer des GAFA européens pour le marché africain?
Oui, mais aussi avec les Africains. C'est-à-dire pas le truc à nouveau post-colonial où en fait l'Europe empoche tout le pactole et rien pour l'Afrique. C'est-à-dire, en gros,
de quoi, un Amazon, par exemple, commun.
Alors, c'est super que vous preniez cet exemple presque au hasard parce qu'en réalité, c'est sur quoi on travaille aujourd'hui. La Poste ivoirienne est en train de mettre en place une technologie française qui permet d'amener Internet quand il n'y a pas d'Internet. Ce qui veut dire que tous les Africains qui, à 60%, ont moins de 24 ans et qui ont tous, sans aucune exception, un téléphone, sont dans des zones de non-couverture la plupart du temps, sauf en ville. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas commander sur Internet puisque vous n'avez pas d'Internet. Ben là, il y a une technologie française qui permet, sans rentrer dans la technique, de passer par les réseaux bas débit, et vous avez Internet partout.
Et donc, qui permettra...
Donc, du coup, qui permet à la Poste de monter une sorte d'Amazon de l'Afrique de l'Ouest et de pouvoir commander tout ce qu'on veut depuis un truc.
Pardon,
pas d'Amazon.
Si Alibaba a pu... Donc, qui est l'Amazon chinois. Si Alibaba a pu croître en Chine, c'est parce que Alibaba est né dans un pays communiste qui est une dictature. Qui est un pays dans lequel il bloquait les tuyaux digitaux pour que justement ni Google ni Amazon n'arrivent sur les smartphones chinois. Exactement. Est-ce que ça veut dire qu'on va réussir à s'autoriser dans ce partenariat Europe-Afrique? Est-ce qu'on va avoir l'audace de dire terminé ce marché-là, vous n'avez pas Google, vous n'avez pas Amazon et vous utilisez uniquement Quant par exemple et l'acteur local?
Mais à Day One, c'est ce qu'on est en train de faire. On dit en gros, on ne peut pas interdire la concurrence parce que c'est anti-libéral et puis c'est pas comme ça qu'on fonctionne.
Les Chinois, ils sont pas libéraux, c'est ça le problème. Alors,
et moi, si vous me posez la question, qui est pourtant suspectée d'être vaguement libérale, moi, je serais plutôt pour un protectionnisme des 5 prochaines années de nos futurs géants européens.
Ah ben oui.
Parce que je vois pas pourquoi on serait les seuls abrutis, excusez-moi du terme, sur Terre, à respecter toutes les règles que les autres ne respectent
pas. Enfin, ça, c'est pas nouveau.
Oui,
alors.
On adore tout ce qui est fait là.
Mais par contre, c'est bien de savoir dire stop.
Mais ça vous intéressait, effectivement. Ce qu'on est en train de faire avec ce projet-là, c'est qu'à un moment donné, justement, ces plateformes vont être disponibles sur des téléphones portables. Et quelles icônes on va trouver? Uniquement des boîtes africaines et européennes qui vont être sur les téléphones.
Puissez-vous dire vrai, parce que si on ouvre les tuyaux pour que les Bezos, Alibaba et consorts vendent leurs produits, alors là, on sera encore les dindons de la farce.
D'où si l'intérêt d'avoir ces 5 ou 7
ans. Ils vont nous inonder encore plus si jamais ça rate, quand même. C'est une réalité, quand même.
Donc c'est ça l'urgence.
Moi, je voudrais quand même savoir une chose. Est-ce que les Chinois ont une bonne image de nous ou pas? Quelle image ils ont des Français et des Européens?
Alors, c'est une image double, triple. La première, c'est que les Chinois, dans leur inconscient collectif, en tout cas les dirigeants chinois, n'oublient pas qu'au XVe siècle, ceux qui sont venus les dépouiller, les humilier, les droguer, les asservir, c'est les Français et les Anglais.
Ça commence bien.
Donc, ils ont quand même ça un petit peu en tête. Et vous verrez, on a repris la lettre de Victor Hugo de l'époque qui expliquait le pillage du palais chinois en disant « j'ai honte d'être français ». Une très belle lettre de Victor Hugo en disant « j'ai vraiment honte d'être français ». Donc
ils n'ont pas oublié l'histoire.
Pour le Chinois, ils n'ont pas oublié l'histoire. Et quelque part, l'étranger, après ça a été les Japonais qui les ont battus, c'est toujours quelqu'un qui leur a apporté des problèmes. Donc ça, c'est la première grille de lecture.
Est-ce qu'on peut rappeler quand même que, sans vouloir généraliser, les Chinois sont quand même extrêmement racistes? Il y a quand même en ce moment avec les Ouïghours quand même quelque chose qui est en train de se passer.
Qu'est-ce qui se passe?
Ben, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de d'empêchement. Manifestement, le gouvernement chinois parque ces Chinois musulmans, les Ouïghours, et il les parque carrément en les privant de
en même temps,
de
c'est une dictature.
Le plus élémentaire. Donc c'est quand même bon peut-être de rappeler que...
Les deux autres éléments, c'est quoi?
Alors, les deux autres éléments, c'est que, un, ils sont très épicuriens. Donc, ce qu'ils aiment bien en France, c'est ce qu'aiment à peu près
la terre entière. Ils aiment notre vin, déjà.
Ils aiment le pinard, ils aiment bien manger, ils aiment bien sortir. Et du coup, ce côté festif, convivial à la française, ils adorent ça. Donc, on a un petit côté sympathie assez forte. On est très fort sur le tourisme. Et c'est ce qu'ils essayent de développer pour les années à venir. D'où l'investissement que vous rappeliez dans le Club Med et dans d'autres. On a vraiment une tradition, un savoir-faire, effectivement. Et puis, la troisième, c'est qu'après, il y a personne qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Il y a ceux avec qui ils peuvent faire du commerce et ceux avec qui ils ne peuvent pas en faire. Et donc, leur objectif, c'est d'en faire. Donc, à partir de là, c'est très pragmatique. L'histoire émotionnelle est assez peu présente dans un esprit chinois. Je suis là pour bosser. Et là, dans notre événement, on a invité 5 étudiants et étudiantes chinoises qui sont dans les grandes écoles parisiennes et disent, mais en fait, on adore être en France, on adore ça. Le seul truc, c'est que nous, on était habitués à bosser et qu'ici, on est presque privés de bosser. On est un peu frustrés
là-dessus. Ça, ils vous le disent,
ça, ils le disent.
C'est incroyable, quand même.
Ils le disent. Ils disent, nous, on aime bosser. C'est comme ça qu'on s'élève socialement. C'est comme ça qu'on réussit. C'est pas en descendant dans la rue. C'est pas en se plaignant. C'est en bossant. Et donc, du coup, ils ont une culture. Et dire que vous alliez dans n'importe quelle région de la Chine, tout le monde partage exactement cette culture.
Est-ce qu'ils aiment les blagues, les Chinois? Est-ce qu'ils rient d'eux-mêmes?
De même, oui,
quand ils se brûlent,
mais c'est un peu comme nous avec les Belges. J'y préfère quand même les blagues sur les Coréens et les Japonais qui les font quand même beaucoup plus.
Et même quand ils sont là, Christophe, ils n'aiment pas qu'on dise que la Chine est une dictature. Attention. Ils profitent des bienfaits de la France, mais il faut surtout respecter la dictature chinoise.
Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, tout ça évidemment est très intéressant. Denis Jacquet, merci beaucoup d'être venu nous voir pour nous parler un peu de la Chine. Ça fait du bien dans les vraies voies de temps en temps de s'aérer un peu l'esprit, surtout qu'après on va aller à Rouen dans quelques minutes. Alors là, on respire mal en ce moment, comme vous le savez. Donc là, on s'est amusé un peu, on s'est baladé, on a voyagé. En Chine, c'est pas toujours facile non plus de respirer dans certaines villes avec la pollution, mais enfin, en tout cas, voilà.
Je crois que ça s'améliore énormément.
Ça s'améliore énormément. Et d'ailleurs, je crois qu'ils sont carrément numéro un mondial pour ce qui est véhicules électriques, là.
Véhicules électriques et surtout les bâtiments qui aujourd'hui recyclent l'air, les particules et les réinjectent purifiés. Aujourd'hui,
ils vont nous donner des leçons là-dessus aussi.
Ils sont les plus gros dépollueurs du monde.
C'est terrible les bienfaits d'une dictature face à une démocratie qu'il faut honorer pourtant.
Ça pourrait être un deuxième sujet. Je serais ravi de
Denis Jacquet était avec nous. Il a écrit ce livre avec Homéric de Sarthe. Pourquoi votre prochain patron sera chinois aux éditions L'Instant qui suit. Merci Denis d'être avec nous.
Plaisir.
Vous restez encore quelques minutes, bien évidemment. La fin de notre débat.
Oh là là, mais c'est le bout du monde, ça, la Chine.
Ah bah oui, bah c'est de l'autre côté, hein. Avec la tête en bas.
Avez-vous peur de travailler pour un patron chinois? On vous a pas entendu. Vous n'êtes pas venu, mais vous étiez très nombreux sur les réseaux sociaux, c'est le principal. Et ça donne quoi, ma chère Trina?
Eh bien, ça donne oui à 57% pour nos auditeurs votants.
Allez, on va jouer tout de suite, on va se détendre un peu. Au roi de l'info, c'est parti.
Oh oui. Oh oui. Oh oui.
Je sais pas qui c'est ce type.
On se demande.
Oh oui.
Mais c'est un peu la Julien Lepers, je trouve.
Oui,
il y a un petit timbre, un timbre de voix. Ouais.
Écoutez, j'espère que ma carrière sera aussi longue que celle de Julien Lepers et surtout que ça ne se terminera pas de la même manière. Allez, c'est parti, une question, trois réponses. Le plus rapide devient le roi de l'info du jour. C'est parti, Trina.
Première info, le directeur d'un magasin Carrefour situé à Calais a été mis à pied il y a quelques jours. Pour quel motif? Est-ce qu'il volait de l'argent dans les sacs des clients? Est-ce qu'il faisait des réductions de 50% à sa femme quand elle passait en caisse? Ou est-ce qu'il volait de la nourriture tous les soirs pour son dîner?
Il volait de la nourriture.
Non.
La réponse
2.
La 2.
Oui.
Bargain, un point.
Du coup, à chaque passage, elle achetait des télés, des centrales vapeur et même des téléphones par dizaines.
Tu m'étonnes. Tu les revends sur le bon coin, voilà. Après c'est parfait.
Oui.
C'est pas en Chine que ça se passerait
En effet.
Pardon de le
rappeler. C'était sûrement des produits chinois d'ailleurs.
Joshua Thompson, employé d'une agence de pub d'Auckland en Nouvelle-Zélande, a reçu un mail de sa direction lui annonçant une mauvaise nouvelle et l'organisation d'une réunion pour discuter de son rôle. Sentant le licenciement arriver, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Est-ce qu'il s'est rendu à la réunion avec la femme de son patron qui était en fait sa maîtresse? Est-ce qu'il s'est rendu à la réunion nu comme un verre ou avec un clown?
Nu comme un verre.
Non.
Trois.
Décidément.
Oui.
Oh, mais c'est incroyable ça.
Bravo. Il a même mimé des pleurs au moment où Thompson devait signer ses papiers de licenciement. Troisième info, la nouvelle version du mythique jeu du Monopoly, qui est disponible en France depuis quelques jours seulement, fait déjà beaucoup, beaucoup parler. Pourquoi ? Est-ce que c'est une version région de France où on pourra racheter des usines en faillite ? Est-ce que c'est une version madame où les femmes gagneront plus d'argent ?
Oui.
Ou est-ce que c'est une version...
Oui, la deux. Ah, non, mais là, celle-là, elle est...
Exactement. Justement, en fait, voilà. Il a remplacé la traditionnelle mascotte, un homme d'affaires à moustache et haute forme, par sa nièce, qui est une investisseuse. Et les joueurs n'achèteront plus des maisons ou des immeubles, mais des innovations créées par des femmes, comme le Wi-Fi ou le chauffage solaire. Wow. Ça mérite des
bonnes initiatives.
Eh bien, nous avons trois gagnants.
Heureusement
que vous êtes là,
Jean.
Nous avons trois gagnants. Nous découpons la couronne en trois et débrouillez-vous avec un morceau chacun. C'est ainsi Barguin, Binger et le docteur Dorido. À tout de suite pour le journal.
Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet.
On peut dire merci à Rémi André chinois.
Oui. C'est le seul mot que vous connaissez.
Autant s'habituer dès maintenant.
Avec l'accent, enfin j'essaie, parce que bon, il ne faut pas non plus faire trop l'accent, parce qu'on ne peut plus rien faire. Sinon, on est raciste.
Et puis, si on se trompe, Christophe, dans l'accent, ça peut vouloir dire
autre chose.
En plus, ça peut vouloir dire le contraire.
Ça voulait peut-être dire du bien de nous, on ne sait jamais.
Les vraies voix sur Sud Radio respirent à plein poumon. Philippe Binger qui bombe le torse comme à son habitude. Ah, si.
Je confirme.
Regardez-moi ce
torse. Je ne fais aucun culturisme.
C'est incroyable.
Il y a des natures. Pas de culturisme par rapport à vous, Christophe, ou à Philippe David. Je ne parle pas de Jean, lui.
Bah, Philippe David, il n'est pas là aujourd'hui.
Non, mais en général, je fonds.
Il vous manque, hein.
Non, mais son torse est un.
Ah ben, son torse vous manque. Non mais c'est incroyable.
On peut en parler, Philippe, si vous voulez.
Son crâne chauve.
Jean Dorido, notre psy, et son livre. Oui, son livre qui est là avec nous. Hein. Tiens, je vais
merci
le montrer.
De rappeler,
oui, je vais
Bordet,
le montrer sur le
plaisir.
Facebook Live. Peut-être que vous le voyez. C'est un très bon livre, hein, évidemment. Et il faut l'acheter, hein, tant qu'à faire. Le bonheur est une science exacte. Donc voilà, très bon bouquin chez Larousse Éditions. Vous avez un bon éditeur.
C'est une belle maison. Oui, je confirme effectivement.
Absolument. Clément Barguin, qui n'a pas encore écrit de livre et peut-être qu'il n'en écrira jamais, on ne sait pas.
Peut-être, on verra dans les prochaines
Trina,
années.
Bon, non, pas de livre.
J'ai écrit la préface d'un livre qui va bientôt sortir.
C'est vrai ?
Je vous en dirai plus
sur la voyance
sur autre chose ? Pas que. Oui.
C'est ça, parce que Trina lit dans les âmes comme dans un livre.
Alors, j'ai des spécialistes pour ça.
Oui,
mais
voilà.
C'est beau.
Moi, j'aurais plutôt dit Trina lit dans les hommes. Mais enfin, bon, dans les âmes,
écoutez,
c'est votre...
Écoutez, bordel, je vous laisse, responsable de vos propos.
Aussi, peut-être.
Chers amis, c'est un peu la loi des séries. Après la disparition de Jacques Chirac, une autre disparition, celle de Jesse Norman. Oui, hommage à une grande voix de l'opéra que j'ai eu la chance, mon cher Binger, il y a quelques années de voir sur scène, et je m'en souviens très bien. L'immense Jesse Norman qui vient de nous quitter à l'âge de 74 ans et qui avait interprété la Marseillaise pour le bicentenaire de la Révolution française en 1989. Citoyens.
Ça, c'est malin.
Là, forcément, je chante pas bien, quoi. Si on me compare à Jesse Norman, ça va pas le faire.
Jesse Bordet.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Jesse Bordet, avec des gestes comme non, ça, mais... comme si j'avais une poitrine d'enfer.
Mais finalement, il n'y a pas un tel gouffre, mon cher Christophe, entre celle qu'on vient d'entendre et la vôtre.
Vous trouvez
Vous êtes passé d'une carrière, Christophe Bordet, je confirme, c'est vrai.
Bon, en tout cas, voilà un grand moment d'histoire avec Jesse Norman qui vient de tirer sa révérence. Philippe Binger, vous aimiez Jesse Norman ?
Je la connaissais très, très peu.
Oui, c'est vrai.
Mais j'ai une grande passion pour l'opéra et j'ai déjà entendu des morceaux d'elle. Et évidemment, c'est un mythe, comme l'était Barbara Hendricks. La Calaf, c'est un phénomène. Moi, je suis une idole idolâtre de la Calache.
La Calache qui revient bientôt sur scène à Paris avec un hologramme.
Ah oui,
c'est une société qui a quand même eu cette idée de mettre la Calache en hologramme sur une scène et on va payer 150 euros pour aller voir un hologramme chanter. Moi, je trouve ça formidable. Ben voilà. Oui. Je me demande pourquoi je n'ai pas eu cette idée d'ailleurs.
Enfin, on a écouté Mélenchon comme ça.
Oui, absolument. Allez, chers amis, on va changer complètement d'univers avec le grand débat des vraies voix à 18h30. On va parler de Lubrizol à Rouen, manifestation des habitants ce soir pour connaître la vérité, pollution ou pas, les analyses, les autorités disent pas d'inquiétude, mais attention, attention quand même, ne consommez pas les œufs, le lait, la salade. Alors question, incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, les autorités sont-elles dépassées par l'événement? 0800 26 300 300. En ce moment même, figurez-vous qu'une conférence de presse est en cours avec le préfet qui dit pas de risque lié à l'amiante. Bon ben voilà, c'est déjà une première information, il n'y avait pas d'amiante dans l'usine, c'est déjà pas mal. Allez, avant de continuer le débat sur ce sujet, dans quelques instants maintenant, tour de table de l'actualité, bis repetita.
Tu sais à quoi je pense?
Je pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul.
Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense.
Le tour de table
de l'actualité.
Alors, il faut pas le déranger. Il est sur son téléphone portable.
Non, ne dérangez pas. Quelqu'un. Alors, Christophe,
vous parliez à quelqu'un?
Non. Quelqu'un qui me proposait, qui me demandait le plan de mon intervention devant une loge et je répondais que j'en fais jamais.
C'est bien. C'est voilà. Bien. Je vous félicite. Alors, allez, on y va. Qu'est-ce qui vous marque dans l'actualité?
Alors, il y a dans la posture politique de Marion Maréchal quelque chose qui m'agace un petit peu. Un pas en avant, un pas en arrière, un pas de côté. Maintenant, elle annonce qu'elle ne sera pas candidate en 2022. Je ne sais pas, peut-être ment-elle, peut-être a-t-elle des ambitions. J'aime pas cette forme de coquetterie de la politique. Ouais. Elle se fait désirer lorsqu'on se rapproche trop d'elle politiquement. Elle dit « mais non, je suis dans l'école ». Il y a quelque chose qui m'énerve un peu.
C'est vrai que ce week-end, il y a eu la convention de la droite. Voilà. Organisé par un certain nombre de proches de Marion Maréchal. Elle a participé à cette convention. Éric Zemmour aussi. Et là aussi, ça fait débat, puisque maintenant, le parquet de Paris a déposé une plainte contre les propos d'Éric Zemmour. On se demande à quoi ça sert de faire une convention de la droite pour soi-disant rassembler les droites et au final, tweeter le lendemain ou le surlendemain, comme elle l'a fait, pour dire « non mais... que les choses soient claires, je ne serai pas candidate à la présidentielle de 2022. À quoi ça rime ce cirque? C'est quand même la question qu'on peut se poser.
Mais est-ce que ce n'est pas sa façon de communiquer aujourd'hui, Marion Maréchal Le Pen? C'est quand même pas la première fois qu'elle fait ça. Quand elle a ouvert son école, on se demandait là aussi s'il y avait des ambitions politiques. Après, elle dit que non. Là, elle participe à la convention de la droite. C'est quand même la star de ce week-end. Elle tweete le lendemain, non, je n'irai pas à la présidentielle en 2022. Est-ce que tout ça, c'est pas justement pour susciter toutes ces questions qu'on est en train de se poser?
Oui, puis elle a peur de quitter le Rassemblement National. À mon avis, il y a ça derrière.
Toutefois, c'est quand même apparemment les relations avec la tante ne sont quand même pas au beau fixe, loin s'en faut.
Ne sont pas faciles apparemment.
Puisque manifestement, tous les cadres du Rassemblement National, avaient vraiment pour instruction de ne surtout pas participer à ce grand raout comme ça, qui était pourtant fait pour eux, manifestement.
Allez, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, avec évidemment la suite du tour de table. Et puis à 18h30, Lubrizol à Rouen, manifestation des habitants hier et ce soir. Pour connaître la vérité, pollution ou pas, les autorités disent pas d'inquiétude. Hein. Mais attention quand même, ne consommez pas les œufs, le lait ou la salade. Alors c'est vrai que ça pose question. Incendie de l'usine Lubrizol, les autorités sont-elles dépassées par l'événement? Venez en parler avec nous, 0826 300 300. Tiens, surtout si vous habitez à côté d'un site comme celui qui a été touché, forcément il y a de l'inquiétude. A tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Les vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Binger, Jean Dorido, Clément Barguin, Trina et le grand débat des vraies voix aujourd'hui. Lubrizol à Rouen, manifestation des habitants ce soir pour connaître la vérité, pollution ou pas. Les autorités disent pas d'inquiétude. Mais ne consommez pas d'œufs, ne consommez pas de lait, de salade. Alors question, incendie de l'usine Lubrizol. Les autorités sont-elles tout simplement dépassées par l'événement. Moi, je ne dis pas qu'elles mentent, les autorités, mais j'ai l'impression qu'elles sont complètement dépassées par ce qui se passe, tout simplement. Venez nous dire, vous, ce que vous en pensez. 0826 300 300 et les réseaux sociaux, ma chère Trina.
Eh bien, pour nos auditeurs votants, les autorités sont dépassées. À 92%, on a Dr Oli qui nous dit « L'État sait, l'État ment. Il m'a fallu 5 minutes pour trouver la liste de produits sur le site du ministère. Faites l'expérience et vous trouverez. » Et en effet, il nous joint une copie d'écran qui vient du ministère de la Transition écologique et solidaire sur l'inspection des installations classées et qui fait état pour l'usine Lubrizol de sources radioactives qui sont vraiment mentionnées.
Ouais. Bon, il faut voir si effectivement cet aspect-là a été concerné ou pas, parce que je rappelle que c'est 1,5 hectare de l'usine qui a été détruite et qu'au total, ça fait 14 hectares le site. Hein, donc, tous les produits ne sont pas non plus au même endroit. Il ne faut pas faire des raccourcis pour faire des raccourcis. Florian Ferjou, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, avocat en droit de l'environnement. Et puis, on aura peut-être dans le studio ou au téléphone, il nous avait promis d'être là, mais on l'attend, André Sicolella, chimiste et toxicologue spécialiste de l'évolution des risques sanitaire. Allez, avant de donner la parole, en tout cas de vous donner la parole, Florian Ferjou, on rejoint le correspondant de Sud Radio à Rouen, Thibaut Gauthier. Thibaut, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors, habitants et militants écologistes manifestent en ce moment même à Rouen et vous êtes avec eux.
Exactement, des manifestants qui sont arrivés tout à l'heure, aux alentours de 17h30, avec de nombreux syndicats de Lubrizol, la CGT, FO en fait, et puis des Rouennais sous la pluie, et ce n'est pas un détail anodin parce qu'il y a une odeur. C'est vrai qu'il y a une odeur difficile à définir, mais qui pourrait s'approcher le plus peut-être d'une odeur de goudron fondu, vous voyez. Et lorsque la pluie reprend de plus belle, l'odeur s'intensifie.
Ah ouais.
C'est difficilement explicable, mais en tout cas, ça renforce forcément le discours des manifestants ici. Environ 1000 personnes, peut-être plus, dont Yannick Jadot, le député européen d'Europe Écologie Les Verts, a fait le déplacement ce soir. Il demande des explications, des réponses. C'est ce que veulent finalement les manifestants. Alors, il faut le distinguer. La CGT, les syndicats qui, eux, sont en colère, qui demandent des comptes à Lubrizol et puis à l'État. Et puis, il faut distinguer les Rouennais qui, eux, sont inquiets. C'est très clair. Ils sont pas forcément en colère contre quelqu'un précisément. Ils sont assez fatalistes. Ils disent c'est fait maintenant. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on risque? Voilà, ils portent des masques la plupart du temps. Et puis, il y a des pancartes. J'en ai une sous les yeux. Une explosion d'usine chimique sans toxicité, c'est comme une tarte aux fraises sans fraises. Voilà pour ça. La nuit tombe à Rouen, les parapluies sont sortis, mais les Rouennais sont déterminés forcément à montrer leur inquiétude plus que leur colère dans les rues de la ville. Le cortège va s'élancer dans un instant depuis le palais de justice pour aller jusqu'à la préfecture de Rouen.
Bon, et vous êtes nombreux? Vous avez un comptage déjà ou pas? Vous pouvez nous dire un petit peu s'il y a plusieurs centaines de personnes
Moi, je pense qu'il y a plus de 1000 personnes. Il y a beaucoup de monde. On a des syndicats, je vous l'ai dit, de la CGT. Il y a une partie très politisée. Avec également, on a vu des drapeaux politiques. Et puis, on a aussi, je le vois au loin, des drapeaux de syndicats enseignants qui demandent que faire de nos enfants, parce que c'est eux qui risquent le plus. Il y a beaucoup d'enfants. C'est une manifestation assez familiale, avec des enfants sur des petites filles là, que je vois sur les épaules de leur papa.
Ouais.
Voilà, c'est une manifestation dans le calme, très familiale. Mais je pense que pour l'instant, même si tout le monde n'est pas arrivé, il y a plus de 1000 personnes devant le palais de justice de Rouen, largement.
Merci beaucoup Thibaut Gauthier, en direct de Rouen. L'inquiétude est là, donc, à Rouen, vous l'avez entendu, parce que on continue de nous dire, quelque part, tout va bien. Vivre à Rouen ne présente aucun risque, disait le maire de la ville à la mi-journée. Florian Ferjou, avocat en droit de l'environnement, vous êtes avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec le maire de Rouen, par exemple, quand il dit ça?
Alors, au-delà d'être en désaccord avec lui, ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a malgré tout un discours quelque peu contradictoire de l'État, puisque très très vite, on a eu un comportement où il a rassuré. Le préfet est intervenu là-dessus. Et puis finalement, tout au long du week-end, et il a commencé à énoncer un peu de prudence sur ce qu'il y avait dans les suies, notamment. Donc, on a eu un premier positionnement, et puis un peu, on relativise un peu ces certitudes liées à la santé publique. Et puis, il y a les actes aussi, le fait de dire que les aliments, que l'agriculture, on arrête de vendre.
Non, mais c'est ça aussi qui pose question. Ouais, on nous dit qu'il n'y a pas de problème, et en même temps, ne mangez pas tel ou tel produit, prenez vos précautions. Donc forcément, ça induit une inquiétude, une suspicion, et ainsi de suite. C'est une réalité.
Temps, c'est normal.
Est-ce que c'est pas, tout simplement l'application du principe de précaution? En réalité, dans le doute, s'abstenir
pas,
et rester vigilant.
Mais voilà, c'est ça. Et toute la question peut se poser, c'est jusqu'où on l'applique. Et peut-être que les personnes voient un peu des contradictions. On a eu aussi l'événement qui s'est passé à Notre-Dame où on nous a un peu mis en sourdine ce qui s'était passé par la pollution au plomb. Il y a peut-être aussi d'autres historiques qui sont un peu dans la pensée collective. Et vis-à-vis de cela, oui, il y a une crainte. Il y a un peu des indices contradictoires qui vont et qui mobilisent une population qui est véritablement en demande d'informations.
Alors, typiquement, vous qui êtes expert du sujet, manifestement, vous parlez de Notre-Dame. Mon sentiment sur Notre-Dame, c'est que, manifestement, il n'y a eu aucun expert suffisamment connaisseur de la problématique de la pollution au plomb pour voir le danger arriver. C'est-à-dire que, manifestement, les autorités sanitaires se sont là retrouvées, je dirais, devant le fait accompli, tombant de l'armoire, pardonnez-moi l'expression, en disant « Ah oui, tiens, c'est vrai, la flèche de Viollet-le-Duc, elle était en plomb. Oh, mais il y a peut-être de la pollution au plomb. » Et je me pose sincèrement la question, est-ce que nous avons, dans ce pays, où on a d'excellents ingénieurs, d'excellents chimistes, est-ce que nous avons des experts suffisamment pointus pour faire le nécessaire dans le cas de telles catastrophes comme à Rouen?
Alors, sur ce qui a pu se passer sur Notre-Dame, il y a eu des expertises qui ont été faites assez rapidement.
Et qui de la même façon, ont étonné par leurs résultats.
Ont étonné par leurs résultats, mais la principale critique qui a été faite, c'est leur publication extrêmement tardive. Et voilà. Donc, on est plus non pas dans l'idée d'une expertise scientifique qui serait lacunaire, mais plus, pour Notre-Dame en tout cas, une information qui n'est pas sortie suffisamment rapidement pour protéger...
Pardon, il ne faut quand même pas être grand clair pour se dire, quand on voit cet effrayant brasier à Notre-Dame, pour se dire, attends, c'est du plomb, là on va avoir un problème avec le plomb. C'est quand même inouï que ça a mis autant de temps pour arriver.
Vous parlez des spécialistes, entre guillemets, sont-ils assez pointus, etc. L'autre question qu'on peut se poser par rapport à Rouen, c'est est-ce que les outils de mesure de la pollution sont également assez pointus? Ou sont-ils assez bien réglés sur le bon curseur? Parce que là aussi, évidemment, on peut se poser cette question. Je ne sais pas si j'ai raison ou tort de la poser, d'ailleurs.
Alors, raison ou tort, mais en tout cas, c'est une très bonne question, parce qu'on rentre dans un des nœuds du problème.
Parlez bien dans le micro, oui.
Excusez-moi. En droit de l'environnement, c'est la logique de l'expertise. C'est qui a raison et sur la base de quoi. Et on observe que, alors, l'État semble mettre les moyens. Récemment, il y a eu des annonces, ils vont avoir le concours de l'INERIS et de l'ANSES pour encore plus pousser les études, certainement d'ailleurs en raison des attentes et puis de la mobilisation des corps intermédiaires et de la population locale. Mais oui, évidemment, une expertise, c'est aussi la manière dont elle est faite, dont on peut s'interroger. Et les interrogations peuvent se multiplier de chaîne en chaîne. Et pourtant, ce qu'il faut résoudre à Lubrizol, c'est que, en tout cas, l'influence... l'enjeu sanitaire qui, en raison de cet incendie, il faut le gérer tout de suite.
Alors,
la discussion des expertises, ça prend du temps.
Non, mais justement, alors ça prend du temps. En même temps, quand même, l'État semble mobiliser, pousser aux fesses, parce que c'est ça, pousser aux fesses par les réseaux sociaux, par les gens qui veulent avoir des réponses tout de suite, etc. On sent bien que ça joue quand même dans cette histoire. Et ça va peut-être même être bénéfique et changer un certain nombre de choses pour l'avenir et pour d'autres catastrophes éventuelles, un peu comme celle-ci. Le préfet vient de tenir une conférence de presse à Rouen. L'objectif, c'était de dire quelle sorte de produit il y avait dans cette usine qui a explosé, notamment de savoir s'il y avait des produits chlorés. Clément Barguin, qu'a dit le préfet, qu'a-t-il annoncé?
Eh bien, c'est un peu la confusion, parce qu'en effet, le préfet avait annoncé qu'il allait délivrer la liste des produits qui ont été utilisés, donc on s'attendait à ce qu'il le fasse pendant cette conférence de presse. Ouais. Il a ensuite dit que la liste serait disponible sur le site de la préfecture à 18h30, et à l'heure où on vous parle, il est 18h39, la liste n'a toujours pas été communiquée, on ne sait toujours pas les produits qui étaient stockés dans cette usine. Là, c'est les dernières informations qu'on a. Il a parlé de l'amiante. Il a parlé de l'amiante, mais c'est tout le seul produit dont il a parlé pendant sa conférence de presse.
En disant qu'il
n'y
avait pas d'amiante,
en disant que les analyses au niveau
Lubrizol
de l'amiante étaient correctes.
Bon, André Sicolella est avec nous au téléphone. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, chimiste, toxicologue, spécialiste de l'évolution des risques sanitaires. Dites-moi, tout d'abord, cette liste se fait attendre, cette liste de produits. Clairement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on sait sur les produits potentiels qui étaient dans cette usine?
Écoutez, on sait ce qu'il y a dans les additifs pour lubrifiants, oui.
Donc il y a quoi?
Surtout les produits organiques qui ont brûlé et donc qui ont formé des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une communication sur la contamination par ces substances. C'est ce qui fait les gros des suies, en fait. Hein.
Mmh. Et puis, Mais en quoi ces produits sont dangereux? C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, en fait.
Ah ben, ces produits sont, un certain nombre de ces HAP sont des cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et perturbateurs endocriniens. Donc,
oui.
C'est, on va les trouver dans la fumée de tabac par ailleurs. Dès qu'il y a une combustion, on forme ces produits.
Mmh. Mais ce sont des produits quoi? Des produits chlorés? Ce qu'on appelle les produits chlorés à base de chlore? Non, pas du tout.
Non, ça, c'est des HAP. C'est des produits hydrocarbures aromatiques polycycliques. La présence de chlore sur le site est avérée, d'après, si j'en crois, le PPRC, le plan de protection des risques technologiques de l'usine du Bruxelles, qui dit on a un conteneur qui contient effectivement de l'acide chlorhydrique. Mmh. Donc c'est l'acide qui sert à faire des produits chlorés. Mmh. Donc moi je m'attendais à ce qu'il y ait une communication sur cette question. Est-ce que c'est les fûts, le conteneur en question a brûlé ou pas? Est-ce que les produits qui étaient faits avec ce chlore ont été concernés par l'incendie? La question se pose. En tout cas, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Il y avait un côté un peu surréaliste dans cette conférence de
presse. Ouais, ouais. Non, alors évidemment, ce que le préfet avait dit un petit peu plus tôt dans la journée, c'est que bah oui, c'était un peu long le fait qu'on détermine la liste précise des produits et surtout qu'on les rende publics, tout simplement parce qu'il y a une circulaire qui date juste après les attentats de 2015. Qui interdit en réalité, ben oui, parce que ce genre d'usine, vous imaginez si elle était attaquée par des terroristes, qui interdit de divulguer ce que contient réellement l'usine. Et donc, tout d'un coup, il a fallu remettre en cause visiblement cette circulaire et puis quand même permettre qu'un certain nombre d'informations soient finalement divulguées au grand public. Donc, c'est vrai que ça ne doit pas être facile non plus. Mais quand même, évidemment, on va dire que tout ce que l'on entend en ce moment, tout ce que l'on comprend de la conférence de presse de ce préfet il y a quelques minutes qui ne donne pas les informations dans leur totalité, leur globalité, ben oui, c'est forcément problématique. Allez, les vraies voix sur Sud Radio avec notre grand débat qui se poursuit. Lubrizol à Rouen, manifestation des habitants hier et ce soir pour connaître la vérité, pollution ou pas, les analyses, les autorités disent pas d'inquiétude, mais ne consommez pas un certain nombre de produits alimentaires. Alors question, incendie de l'usine Lubrizol, les autorités sont-elles dépassées par l'événement? 0826 300 300, si vous habitez à côté d'un site du même genre, vous pouvez nous appeler. Et les réseaux sociaux, Trina?
C'est largement oui, à 93% pour nos auditeurs votants.
Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. The revolution, I suppose, we're painted red to fit right in. Whoa.
Les vraies voix Sud Radio, Christophe Bordet.
Les vraies voix sur Sud Radio avec notre grand débat du jour. Lubrizol à Rouen, manifestation des habitants ce soir pour connaître la vérité, pollution ou pas. Et on vous pose cette question, incendie de l'usine Lubrizol, les autorités sont-elles dépassées par l'événement? 0826 300 300. Si vous êtes du côté de Rouen, vous pouvez écouter Sud Radio sur le DAB+, depuis quelques heures maintenant. Donc oui. N'hésitez pas, un petit poste DAB+. Dans un magasin bien connu comme la Fnac, bon, un peu de pub en passant, et hop, on écoute Sud Radio à Rouen. C'est quand même formidable, hein, formidable, mon cher Philippe Bunger. Mais oui, formidable. Et puis les réseaux sociaux, ma chère Trina.
Eh bien, c'est toujours le oui qui l'emporte à 92%. On a Monsieur Colombo qui nous dit aucune transparence des autorités, alors que ça concerne plusieurs départements et même la Belgique. 5 jours pour avoir une liste de liste des produits.
Florian Ferjou, avocat en droit de l'environnement, est avec nous, ainsi que André Sicolella, chimiste, toxicologue, spécialiste de l'évolution des risques sanitaires. Florian Ferjou, la France insoumise semble avoir porté le flambeau et porte le flambeau dans cette affaire de Rouen, réclamant la vérité à tout prix. Je vous propose d'écouter François Ruffin, c'était cet après-midi à l'Assemblée nationale.
Dans l'usine se trouvait de l'hydroxyde de potassium,
seul
une
Monsieur
substance
Ruffin
corrosive
parole.
Pour la peau, les yeux et surtout les voies respiratoires. Oui ou non, mesdames, messieurs les ministres, Ce produit a-t-il brûlé dans l'incendie? Dans l'usine se trouvait de l'acide chlorhydrique, principe actif du gaz moutarde connu depuis la Première Guerre mondiale. Oui ou non? Ce produit a-t-il brûlé dans l'incendie? Dans l'usine se trouvaient des chlorures de soufre classifiées matière toxique ayant des effets immédiats graves. Oui ou non? Ce produit a-t-il brûlé dans l'incendie? Depuis vendredi, vous savez, comment expliquez-vous que c'est seulement aujourd'hui que peut-être le préfet va rendre publique cette liste?
Florian Ferjou, vous répondez quoi à Ruffin? Il a raison.
Alors, lui répondre, lui, directement, c'est un peu compliqué.
Non, mais bon, il cite un certain nombre de produits. En tout cas, je ne sais pas d'où il sort cette liste, mais il l'a.
Oui, exactement. Mais c'est vrai que ce qui est important dans ce sujet-là, c'est voilà, toute cette mobilisation des corps intermédiaires ou de la société civile qui demande vraiment cette transparence-là. Et ce que je dirais en complément de ce qu'il peut dire, c'est que, en principe, sur un site Seveso, on est sur une réglementation très haute en termes d'exigences environnementales. Et en principe, l'administration, le public, et surtout l'administration, doit exactement savoir, avant qu'il y ait un incident, ce qu'il y a effectivement sur le site et ce qu'il y a aussi dans les toitures de ce site-là.
Christophe, vous aviez évoqué tout à l'heure, en tout cas l'espérance que ça serve pour plus tard. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir qu'à chaque catastrophe, on a le même processus.
Toujours le même scénario.
On veut savoir la vérité tout de suite, elle arrive lentement, je vous l'accorde.
Quand elle arrive. Hein.
Voilà, il y a une défiance, une présomption à l'égard de l'État qui cacherait des choses. On est persuadé que les pouvoirs dissimulent, les préfets sont plus ou moins adroits, et en réalité, il me semble, mais je ne suis pas un spécialiste, qu'on ne peut pas donner parfois une vérité qu'on n'a pas encore. Mmh. Alors, vous avez rappelé tout à l'heure à quel point leur démarche dans la communication n'a peut-être pas été totalement cohérente.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Oui, d'autant que je viens d'entendre notre spécialiste qui explique effectivement une usine Seveso, c'est ultra réglementé, donc ça veut dire que cette liste, elle existe bel et bien. Je me demande, quelle est votre analyse, vous? Comment ça se fait, d'après vous, que ces informations n'arrivent pas plus rapidement auprès de la population?
Alors, c'est délicat de faire des suppositions. De toute façon, par rapport à ça, il y aura une enquête administrative qui va être ouverte pour savoir un peu comment ça va se passer. Et puis, il y aura
votre sentiment, vous connaissez le sujet. Comment ça se fait, si cette liste est connue, comment ça se fait qu'elle ne soit pas diffusée auprès du grand public?
Alors, est-ce que cette liste, ils l'ont... c'est tout l'enjeu. Est-ce que cette liste a été vraiment effective? Est-ce que la réglementation a été respectée pour avoir cette liste-là? En tout cas, c'est la question.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui des usines Seveso en France, par exemple, dont on ne sait pas, finalement, quels sont les produits qu'elles traitent, alors que les autorités devraient le savoir?
Je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où il y a cette circulaire qui date de 2015, après les attentats où les produits doivent rester secrets, les autorités le savent, évidemment, mais ne peuvent pas les divulguer au grand public.
C'est différent.
Elles peuvent le savoir
et ne pas avoir le droit de le dire. Elles peuvent peut-être, ça je n'en sais rien, précisément, elles peuvent peut-être ne pas savoir ce que font.
Une
usine, il y a un directeur d'usine, et le type peut aussi faire ce qu'il veut, entre guillemets. S'il n'en réfère pas à ses autorités de tutelle, on ne sait pas ce qui se passe dans ces
usines. André Sicolella était au téléphone. Et par magie, il est dans notre studio. Et on le remercie. Super. Merci André d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Non mais vous venez d'entendre la réflexion de Dorido, de se dire mais quand même, ces produits, si Ruffin par exemple donne un certain nombre de produits qui étaient dans cette usine tout à l'heure à l'Assemblée nationale, ça prouve que ces produits, on doit savoir. Quels sont-ils réellement? Non mais pourquoi effectivement c'est aussi difficile de le savoir?
Il y a deux choses. Il y a les produits qui étaient présents, et puis ceux qui ont été formés par la combustion.
Oui.
Donc les risques sont liés aux deux.
Oui.
Ceux qui étaient présents, moi j'ai lu ce qu'on appelle le PPRT, le plan de prévention des risques technologiques de l'usine.
Oui.
On signale effectivement la présence d'un conteneur d'acide chlorhydrique. Bon, acide chlorhydrique, ça veut dire qu'il y a des produits chlorés qui étaient fabriqués dans cette usine. Lesquels? Ce qu'on lit dans la littérature technologique, parce que c'est quand même pas une technologie extraordinaire, c'est la fabrication des huiles.
Qu'on met dans les voitures, dans les moteurs.
Dans les voitures, donc c'est pas... Il y a pas vraiment de très grand secret. Ouais. Donc je vois effectivement dans la liste, on voit des paraffines chlorées. Bon, parce que...
Dangereux ou pas?
Les paraffines chlorées, quand elles brûlent, ça va donner des dioxines chlorées.
Ouais.
Donc il faut effectivement.
Le terme Seveso vient de la dioxine de Seveso.
C'est surtout Seveso. C'est la catastrophe de Seveso le 10 juillet 1976. Un réacteur de trichlorophénol qui saute et donc qui va contaminer 18 km² autour de l'usine. 18 km². 15 à 30 kilos de dioxine répandue. Voilà. Donc, quand je vois effectivement des produits chlorés, je me dis, bon, il faut regarder cette question-là. On devrait aujourd'hui avoir la connaissance, déjà, valider effectivement ce qui est marqué dans ce plan. Est-ce qu'on a supprimé ces conteneurs ou pas? Voilà. Deuxièmement, on doit avoir la connaissance de la répartition géographique. Tout ça est tombé sur, est retombé sur, des, sur une surface. Ça a été fait à Céveso. Donc, on a le modèle, si j'ose
Mais
dire.
Alors, bon, depuis ce temps-là, depuis Céveso, donc, effectivement, des mesures ont été prises, la sécurité a été renforcée autour de tous ces sites, etc. Bon, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a quand même toujours des accidents avec des conséquences complètement folles, et notamment sur le fait qu'on a toujours autant d'habitants, pardon, mais autour de ces sites, alors qu'on ne devrait peut-être pas en avoir autant aussi.
Oui, quand vous voyez, enfin, je cite toujours Céveso parce qu'on a cet exemple, 18 km2, hein. Donc, c'est, vous voyez, c'est une surface de contaminée parce que les niveaux de contamination sont faibles, sont faibles du point de vue quantitatif, mais ils sont considérables du point de vue du risque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des substances type dioxine agissent à des niveaux. La dose, la norme, c'est des picogrammes par kilo de gramme, de kilogramme de poids corporel. Des picogrammes, c'est des millionièmes de millionièmes de grammes.
C'est 12 zéros après la virgule.
Soyons pas trop techniques, parce que je suis pas sûr que ceux qui nous écoutent comprennent tout.
C'est pour vous dire que ces substances agissent à des niveaux extrêmement faibles. Donc, il faut voir, parce que c'est le niveau est faible, que le problème ne disparaît
pas. Que le risque n'est pas présent.
Tout à fait. Ouais. Et donc, mais on sait les mesurer. Et donc moi je m'étonne qu'on n'ait pas encore cette donnée, parce que c'est à partir de là qu'on construit une politique effectivement de protection.
Au 0826 300 300 vous nous appelez, vous voulez réagir, il y a Flavie qui appelle de Nice qui est avec nous. Salut Flavie.
Bonjour.
Alors Flavie, qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur cette usine de Rouen?
Ben, j'ai un ami qui a travaillé là-bas et qui me dit que là où ça a brûlé, en fait, là, c'est là qu'ils mettent du stockage, qu'ils entreposent avant la livraison. Donc, peu de temps, ça part quasiment tout de suite, tu m'as expliqué.
Donc, c'est plutôt des produits finis, quoi, a priori.
Des produits finis, a priori. Oui, ce sont des huiles pour les moteurs, tous les produits que j'ai entendus cités par Ruffin sont les bons.
Ah oui, la liste de Ruffin qu'on a entendue là il y a quelques instants dans Les Vraies Voix, pour vous c'est la bonne liste par rapport à ce que vous a dit cet ami.
Oui, j'en ai entendu d'autres produits qu'il n'a pas cités, des choses qui sont avec des chiffres et des lettres, simplement, mais la liste est bonne.
Voilà.
Et d'après lui, c'est malveillant, parce que c'est pas possible là. Ce sont des cuves en acier donc, qui sont proposés là.
Merci beaucoup Flavie. Merci Flavie de Nice d'avoir témoigné dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous dites que c'est malveillant. C'est vrai que ce que dit le directeur de l'usine, c'est que le feu, selon les vidéosurveillances, etc., aurait pris à l'extérieur de manière assez étonnante. Bon, si ça se confirme, c'est vrai que c'est un peu embêtant. On parlait même d'un incendie dans une usine qui est collée effectivement à celle-ci. Il va falloir voir ce que donne l'enquête, évidemment, dans les jours qui viennent. Merci à vous deux d'être venus. Alors, c'était un peu rapide, André, puisque vous êtes arrivé à la bourre, si je puis me permettre. Mais enfin, c'est pas grave.
J'essaie de répondre à toutes
les questions. Mais vous avez raison. Vous inquiétez pas, vous n'irez pas au coin. Voilà, c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis, merci également à Florian Ferjou d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec cette question. Lubrizol à Rouen, manifestation des habitants ce soir pour connaître la vérité, pollution ou pas, les analyses, les autorités disent pas d'inquiétude, mais ne consommez pas d'œufs, de lait, de salade. Alors question, incendie de l'usine Lubrizol, les autorités sont-elles dépassées par l'événement? Résultat définitif sur les réseaux sociaux, Trina.
C'est oui pour nos auditeurs, votons à 93%.
Eh bien voilà, et on a été à 93% en pratiquement toute l'émission.
On a commencé à 91.
91, voilà. Bon, dans un instant, les infos de 19h, bien sûr, et puis les vraies voix des entrepreneurs avec Philippe Rossi.